France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Ce matin, je vous invite à célébrer un génie discret de la musique. Beaucoup d'entre nous l'ont découvert enfant à travers ses disques piccolo et saxo, mais André Pop fut également le créateur de tubes mondiaux comme Les Lavandières du Portugal ou Love is Blue, et surtout un fabuleux bricoleur de musique en tout genre. 5 ans après sa disparition, un coffret lui rend hommage. Nous en parlons avec son fils Daniel Pop et notre ami Serge Elaïc. Mais avant toute chose, en pleine période de mouvements sociaux, j'ai cru bon de ressortir pour vous cette petite chanson.
Assez, assez, messieurs, assez. En grève, en grève.
En grève.
Monsieur le chef, ma voix s'élève pour vous annoncer sans façon que nous allons nous mettre en grève. Ce que nous voulons, nous l'aurons.
Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Comment ? Alors, voulez-vous être augmenté de 1000 francs ? Vous acceptez ?
C'est pas assez.
Mais l'argent, on s'en fiche, nom d'une pipe. Chef, mais c'est une question de principe.
Alors, voulez-vous un an de repos et le droit de parler argot?
C'est beaucoup trop.
Être menés à la baguette, chef, cela ne nous convient pas. Ah. Occupons toutes les banquettes, nous allons coucher sur le tas.
Bon. Eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Ah, quand ici vous dormirez, vos femmes pourront vous veiller.
C'est pas assez.
Oh, nos femmes, quelle erreur est la vôtre? Nous préférerions celle des autres, voyons.
Enfin, voulez-vous Ninon de l'Enclos ou la Vénus de Milo?
C'est beaucoup trop.
Ah là là, messieurs, vous n'êtes vraiment pas commode, savez-vous. Vous protestez, et pour quelle raison?
D'abord parce que c'est la mode, et puis pour embêter le patron.
Ah, c'est comme ça, eh bien, mes chers amis, vous aurez tout ce que vous désirez.
C'est pas assez.
Alors, voulez-vous être commandeurs tous de la Légion d'honneur?
C'est pas assez.
Comment? Enfin, songez au revers de la médaille. Car enfin ici, il n'y a que moi qui travaille, non?
Soit, nous l'avouons bien haut, vous travaillez du chapeau.
Ah, pas le semble, c'en est trop.
Voilà, on peut s'amuser et faire des chansons avec tous les sujets, même des choses aussi sérieuses que les mouvements de grève. Là, c'était La Grève de l'Orchestre, enregistrée en 1936 par Ray Ventura et ses collégiens.
Thank you.
Un petit tango à 11h05, ça ne peut pas faire de mal. C'était en plus une merveille du genre, l'orchestre d'Osvaldo Pugliese en 1945 dans El Monito.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Quant à l'homme dont nous allons parler ce matin, j'avais eu la joie de le recevoir deux fois dans cette émission. C'était un musicien fascinant, étonnant par son mélange, puisqu'à la fois autodidacte, grand professionnel, esprit moderne et toujours inventif. Peut-être avez-vous l'impression pour certains de ne pas le connaître, mais vous le connaissez tous au moins par certains de ses succès. Nous allons donc l'évoquer ce matin en compagnie de son fils Daniel Pop et de notre ami Serge Laïc. Au programme donc de cette matinée, le grand André Pop.
Connaissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal, surtout celles de la rivière de la ville de Setúbal? Ça n'est vraiment pas des lavoirs où elles lavent, mais des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tape, tape, tape sur ton battoir. Tape, tape, tu dormiras mieux ce soir. Un homme s'approche d'elle, surtout s'il est jeune et bien fait. Aussitôt glissent leurs bretelles de leurs épaules au teint frais. Oui, mais si c'est un va-nu-pied ou bien même quelques vieilles hidalgo, elles s'amusent à le mouiller en chantant d'une voix éraillée. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Le soir venu, les lavandières s'en vont avec leur linge blanc. Il faut voir leur silhouette fière se détacher dans le couchant. Sur la tête, leur panier posé, telles des déesses antiques. On entend doucement s'éloigner leur refrain et leur pas feutré. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tape, sur ton battoir et tape, tape, tu dormiras mieux ce soir. Tape, tape, tape sur ton battoir, tape, tape, tu dormiras mieux ce soir.
Les jeunes générations dont je ne fais hélas plus partie ne savent pas quelle fut la gloire mondiale de Jacqueline François avec un certain nombre de chansons et notamment C'est lavandière du Portugal, enregistrée, adaptée partout, composée par André Pop. Bonjour Daniel Pop.
Bonjour.
C'était un moment important de sa carrière pour lui, votre père, Les Lavandières.
C'était un moment essentiel parce que c'est à partir de ce titre-là qu'il a commencé à avoir véritablement du succès.
C'est ça, puisque c'est 1955 et effectivement, comme on le verra, 56-57, après ça a été des années d'explosion, on peut dire, de la carrière
oui,
de André Pop.
Totalement, parce qu'il y a eu Les Lavandières, il y a eu Piccolo, on va parler de tout ça
tout
bien
ça
entendu.
Tout ça est arrivé presque en même temps.
Mais sur Les Lavandières, j'ai une petite anecdote. Parce que c'est vrai que Jacqueline François était une énorme vedette à l'époque.
Mondiale.
Mondiale, absolument. Et en fait, Roger Lucchesi, donc, qui est l'auteur de cette chanson,
des paroles,
vient, hein. Les paroles bien sûr, vient avec mon père pour présenter des chansons, et ils ont présenté 15 chansons avant, et Jacques dit, non. Et Lucchesi avait, en plus, Lucchesi avait vraiment un talent pour vendre. Et là, bon, Les Lavandières, c'était la dernière chanson. Et là, Jacqueline Françoise dit, c'est celle-là que je veux! C'est ça l'histoire, en fait.
On a du mal d'ailleurs à imaginer pourquoi cette histoire de La Lavandière du Portugal a eu un tel succès, mais sans doute parce que la musique est très bien faite, la musique de votre père. Et d'ailleurs, j'en profite pour poser une question à notre ami Serge Elaïc, qui est également présent. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Bonjour
Daniel.
Bonjour. Question piège au grand spécialiste des arrangements et des arrangeurs. Pourquoi André Pop, qui était lui-même un très grand arrangeur, a fait faire les arrangements de cette chanson par Michel Legrand, son excellent ami d'ailleurs?
Mais parce que je pense qu'à ce moment-là, André n'avait pas vraiment commencé à accompagner les artistes. C'était 55-56, la frontière, alors qu'à ce même moment, c'est Michel Legrand qui avait le vent en poupe.
Comme et
Jacques
arrangeur,
Canetti, oui, il l'avait appelé, parce qu'il appelait Michel Legrand tout le temps. Parce que c'était le monsieur arrangement de l'époque des années 52, 53, 54, 55.
Pop arrangeur, c'est un tout petit peu
c'est
après.
C'est tout de suite après. Oui, tout de suite après.
Voilà. Et en tout cas, voilà, quel musicien étonnant, on va le voir, qui fut à la fois compositeur de chansons, arrangeur, compositeur d'orchestre, de musique légère, de choses parfois très étranges. Je ne sais pas comment, Daniel Pop, votre père se voyait lui-même, comme quoi un compositeur classique, à tendance moderne, un homme de variété.
Alors, moi je pense que c'est son goût qui le portait. Ouais. C'est son goût pour les harmonies un petit peu étranges, audacieuses, tout simplement parce que ça lui plaisait. Ça lui plaisait. C'est vraiment, c'est la musique. C'est la musique. Il était porté, en fait, par ses audaces harmoniques, par sa façon d'organiser les instruments par rapport aux autres. Il n'y avait pas de stratégie. Je pense qu'il était ouvert, il était complètement disponible. Ce qui fait que...
Il se voyait plutôt comme un musicien de variété ou un musicien classique?
Alors, quand il arrive à Paris, si j'en juge effectivement les quelques interviews de l'époque, il se pose la question de savoir s'il va être un musicien classique ou s'il va faire de la variété. Il y a quelque chose qui est très important, c'est son goût pour la musique populaire. Ouais. Et ça, je pense que c'est l'élément essentiel. Et quand il a commencé à travailler avec le club d'essai, avec la radio, bon, il était considéré, bon, il y avait effectivement Schaeffer, la musique concrète et tout ça, c'était la musique sérieuse. Ouais. André Pop, avec nombre de ses confrères, c'était pas forcément de la musique sérieuse. Voilà. C'était beaucoup moins sérieux.
Mais c'était très inventif aussi.
Mais c'était extrêmement inventif.
Et André Pop, alors on va le voir, a été aussi un grand compositeur de musique orchestrale, d'où ma question. Et je propose qu'on écoute tout de suite je ne sais pas si c'est un grand succès, mais c'est très joliment fait, Ma Nounou du Tanganyika. Un mot, Serge?
Oui, je peux dire un mot. C'était une des musiques qui était sûrement dans les émissions que André Pop avait commencé à illustrer musicalement, c'est-à-dire La Bride sur le cou. Je pense que cette musique faisait probablement partie de cette mouvance des morceaux. D'autant que c'est ce se trouve dans le premier disque de André Pop, qui est musique en tout genre, et c'était le relevé, paraît-il, des musiques qui étaient jouées dans La Bride sur le cou.
Absolument. Voilà.
Et les oreilles musiciennes auront remarqué comment à la fois André Pop semble se plier aux conventions de la musique légère et en même temps apporte quelque chose de tout assez audacieux. Il y a des harmonies polytonales un peu à la Darius Milhaud, Daniel Pop,
oui,
dans ce morceau.
Absolument.
Qui fut extrait donc de son album Musique en tout genre, qui est son premier disque.
C'est son premier disque qui effectivement intégrait nombre de musiques qu'il avait composées pour l'émission dont il s'est occupé pendant de nombreuses années, qui était La Bride sur le cou.
La Bride sur le coup dont nous parlait Serge à l'instant. Voilà. Serge, en quelques mots, Serge Laïc, c'est quoi, si on devait résumer, l'importance d'André Pop?
C'est universel, je vais dire. Parce que quand on voit tout ce qu'il a exporté comme musique dans tous les pays du monde, on a parlé des Lavandières du Portugal, où là, vraiment, un nombre incalculable d'artistes français, américains, germaniques ont repris. Moi, j'ai quelques. Il y a David Rose qui a repris les Lavandières du Portugal. Il y a Percy Faith qui a repris les Lavandières. Tous les grands du métier de la direction d'orchestre ont tous repris le morceau Les Lavandières.
Mais qu'est-ce qu'il a apporté de singulier dans ce métier? Parce que là, par exemple, ce morceau qu'on vient d'entendre, c'est de la musique légère. C'est préfacé d'ailleurs par Pierre-Marcel Londer,
notre ami Pierre.
Disque.
Incroyable.
Et en même temps, André Pop, il ajoute quelque chose d'un peu différent à ce monde de la musique légère.
Oui, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des Lavandières encore une fois, où André Pop a amené des dissonances dans l'écriture de ce morceau. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote supplémentaire. On parlait tout à l'heure de l'anecdote de Jacqueline François. Mais quand Jacques Ellian a voulu aussi de son côté jouer le morceau
adapté les Lavandières du Portugal,
il avait téléphoné à André Pop pour lui dire: je n'arrive pas à jouer un accord parce qu'il y a une dissonance trop importante et ça ne va pas plaire au public. Finalement, André n'a pas accepté cette remarque. Et finalement, Jacques Ellian réussit, comme tous les autres, à jouer Les Lavandières du Portugal avec la dissonance.
Voilà. Alors, en tout cas, ce matin, on va pouvoir aussi retrouver la voix d'André Pop, que j'avais eu, moi, le plaisir de recevoir. Mais vous aussi, Serge, et vous nous avez ressorti des petits extraits d'interviews très intéressants, où il parle de sa formation de musicien. Mais en quelques mots, Daniel Pop, ce qui m'a d'abord frappé quand je me suis plus intéressé à lui, c'est que j'étais vraiment persuadé qu'avec un nom pareil, André Pop, c'était soit un pseudonyme, soit peut-être un musicien venu d'Europe centrale ou je ne sais où. Mais en fait, Pop, c'est un nom de la Vendée où votre père a grandi.
C'est un nom vendéen, mais l'ascendance, elle est germanique. En fait, les Pop arrivent de Hambourg en 1703. Et quand vous parlez d'Europe centrale, il y a beaucoup de Pop, P-O-2-P, en Europe centrale. Donc c'est un nom germanique, en fait.
Voilà. Et le milieu familial dans lequel il a grandi, en Vendée, c'était quoi? Il est né en 1924.
Il est né en 1924. Son père était médecin colonial, à Tombouctou, en Extrême-Orient. Mais en fait, il a très peu connu son père. Parce que son père a ramené un certain nombre de maladies des tropiques et il est mort quand il avait 5 ans.
Ah oui, le père médecin colonial tué lui-même par des maladies.
Médecin colonial. En fait, mon père était dans une famille qui était marquée par le deuil. Ouais. Parce que sa maman a perdu 3 maris. A perdu aussi une petite fille quelques mois avant la naissance de mon père. C'était pas une ambiance rigolote.
Très joyeuse.
C'était une ambiance vraiment très triste. Et comme je l'explique dans l'introduction au coffret, il y a vraiment eu un phénomène de résilience tout à fait extraordinaire. Je crois que la musique lui a ouvert des portes extraordinaires.
Et alors, ce qui est fascinant, donc, c'est qu'André Pop découvre la musique finalement en autodidacte, il revendiquera souvent ce terme, et notamment sur l'orgue du village,
du village, c'est l'orgue de la pension Saint-Joseph.
De la pension Saint-Joseph, pardon.
À Fontenay-le-Comte.
Il passait toutes ses récréations à aller répéter effectivement sur l'orgue, parce qu'il remplaçait l'abbé qui avait été mobilisé.
Comme il va nous l'expliquer lui-même.
J'étais organiste à 15 ans, enfin quand la guerre s'est déclarée, parce que l'abbé qui tenait l'orgue a été mobilisé. Et donc on savait que j'étais musicien, je faisais un peu de piano. On m'a demandé donc d'accompagner les offices. Et il a fallu que je me mette au grégorien, que je connaissais pas du tout. Donc il a fallu que je me mette de la portée à 5 lignes. Il a fallu me mettre à 4 lignes avec les notes carrées. Après, c'était assez amusant à faire. À cette époque-là, j'étais étant élevé dans une école religieuse, je suivais le train, quoi. Je ne croyais pas beaucoup au discours des abbés, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aller à la chapelle et puis préparer des morceaux que j'allais jouer à la messe. Voilà, c'était ça. Donc, toutes mes récréations, j'allais là et je répétais. Et surtout, le soir, vers 5 heures, quand la nuit commençait à tomber, il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Ça, je me donnais des frissons, je dirais.
Les bonnes sœurs vous écoutez, alors ?
Oui, et j'ai souvent dit que les bonnes sœurs devaient avoir l'oreille moderne, parce que je jouais beaucoup d'accords traditionnels. Je suis né comme ça. Je n'ai pas une grande passion pour les classiques, Mozart, Bach ou Beethoven, mais par contre, j'adorais les maîtres de l'orgue, Jean Langlais, Tournemire, Vierne, et Messiaen, évidemment. Et ça a été comme ça, quoi.
Très très long comme ça, c'est toujours Olivier Messiaen ici à l'orgue de la Trinité dans la Nativité, une œuvre composée un peu avant la guerre et devenue rapidement célèbre. Peut-être que ça faisait partie des œuvres de Messiaen que votre père avait entendu, Daniel Pope.
C'est tout à fait possible.
Voilà.
Messiaen, Langlais, Vierne, toute cette génération de gens qui étaient un peu plus âgés que lui, mais à peine, à peine.
Et auxquels il avait été initié, donc notamment.
Alors il a été, c'est simple. Durant son adolescence, bon, il traverse une période de dépression du fait de cette ambiance un petit peu mortifère. Et il va à Bressuire, chez son demi-frère. Et là, il y a un monsieur qui est à la fois juge et qui est à la fois organiste de l'église. Et cet homme est complètement passionné par cette musique moderne.
Ah, oui.
Et c'est lui qui l'a initié, en fait. J'ai découvert ça dans une interview du magazine Musique. Il a raconté ça à Fred Palem.
Voilà. D'accord. Et donc, on va retrouver tout de suite André Pope qui va continuer de nous raconter un petit peu sa formation. Mais je voudrais qu'on fasse une petite précision. Qu'on donne une petite précision, c'est parce que donc il va finalement monter à Paris. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a joué un grand rôle et qu'on retrouvera dans Piccolo et Saxo, mais qu'on retrouve aussi dans Les Compagnons de la Chanson et de beaucoup d'autres endroits. C'est Jean Broussolle.
Jean Broussolle a été, c'est un personnage essentiel,
oui.
Essentiel.
Comment ils se sont rencontrés en fait?
Jean Broussolle était résistant.
Oui.
Et pour se mettre au vert. Il va se réfugier chez sa sœur, oui. À Fontenay-le-Comte. Il fait la connaissance de papa, qui était déjà pianiste, et commence à collaborer ensemble. Et en fait, c'est vraiment, au travers de ce que papa témoigne, c'est Broussolle qui lui a appris à composer une chanson avec un couplet, un refrain, un pont, etc. etc.
Et il l'a toujours remercié pour ça, d'ailleurs.
Parce qu'auparavant... Oui. Je dirais pas que ça partait dans tous les sens, mais c'était tellement moderne que c'était pas une chanson.
Ah oui, d'accord. Il l'a cadré un peu, Broussolle.
Il a un petit peu cadré. Voilà. Si tu veux faire des chansons populaires, c'est comme ça. Voilà.
Moi, j'admire beaucoup Broussolle pour, je sais pas, Le Marchand de Bonheur et d'autres chansons des Compagnons merveilleusement arrangées, enfin, écrites par lui, hein.
Et d'ailleurs,
Serge Laïc.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Daniel Pope, c'est avec Jean Broussolle qu'il écrit sa première chanson, Grand-papa laboureur, après la guerre. Et que cette chanson va être beaucoup plus tard enregistrée par Catherine Sauvage.
Absolument.
Et qui sera le premier arrangement pratiquement écrit par André Pope pour Philips.
Et puis donc André Pope, arrivé à Paris, donc avant même de commencer à devenir musicien à la radio, compositeur d'orchestre, comme on va l'entendre dans un instant, travaille justement aussi comme pianiste, notamment aux Trois Baudets.
Alors, il travaille Il travaille chez un certain nombre d'éditeurs, dont Breton, qu'il met en contact avec tous les gens qui ont pu compter, Jean Tardieu, etc. Ouais. Et parallèlement à ça, il travaille effectivement comme pianiste au Trois Baudets.
Voilà, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, quoi, en somme.
C'est comme ça qu'il gagne sa vie, absolument.
Voilà.
Enfin, chez Breton, il n'était pas payé, c'était bénévole. Hein.
C'est vrai.
Mais oui, comme il avait la possibilité, ça, de transposer dans toutes les tonalités, parce qu'un autodidacte, ça ne veut pas dire il a appris tout seul.
Il a appris tout seul, mais il a beaucoup appris, parce qu'il avait un grand métier.
Il a énormément appris. Ouais, voilà. Et ça, Broussol en témoigne dans une interview sur une émission en 1960. Il passait ses journées à recopier les partitions des maîtres modernes.
Ah oui, c'est
donc
ça,
il avait une immense culture.
Même sans être passé par le conservatoire.
Mais complètement. À tel point d'ailleurs que quand il arrive à Paris et quand il ressent quand même quelques manques dans son apprentissage, il va voir Messiaen. Et Messiaen lui dit, écoutez, ce que vous faites c'est très bien, je n'ai rien à vous apprendre. Et papa lui dit, ah mais non, écoutez, c'est pas possible, non. Et Messiaen lui répond, non, je vous assure, continuez comme ça, c'est très bien.
Ça fait plaisir quand même.
On va ça lui a donné une confiance extraordinaire.
On va le retrouver, André Pop, qui nous parle cette fois de ses débuts dans notre belle maison, même si ce n'était pas encore d'ailleurs dans les murs de l'actuelle maison de la radio. Oui. Mais la radiodiffusion et le service de musique légère auquel il a beaucoup contribué, entraîné notamment, vous l'avez cité, par Tardieu et un certain nombre d'écrivains et de poètes.
Tardieu, Queneau, Soupeau.
Aussi imaginatif que l'était André Pop.
Étant donné que je suis autodidacte, que je n'ai jamais appris à composer, à orchestrer ou à diriger. J'ai fait tout ça sur le terrain. Parce que justement, l'ORTF est beaucoup dans mon métier, puisque j'ai commencé au club d'essai avec Jean Tardieu, et je sais pas, ils ont dû déceler chez moi quelque chose, parce qu'ils m'ont commandé des opéras bouffe. Donc c'était la première fois que j'écrivais comme ça pour des voix et tout ça, et ça leur a beaucoup plu. Ensuite, ils m'ont confié une émission de radio qui s'appelait Chansons pour demain, où ils passaient Brassens. Et comme ça marchait très bien, on m'a commandé une grande émission qui s'appelait On a volé le Père Noël, qui a eu un succès fou et qui est passé sur les chaînes nationales. Et suite à ça, je suis passé sur je sais plus quelle était la chaîne à l'époque, c'était un genre France Inter. Et on avait la grande émission du samedi soir avec Jean-Bernard et Bernard Rubren. Et alors pour cette émission, j'avais une demi-heure de musique assurée. Donc je me suis mis à composer pour l'orchestre. J'ai eu d'abord 20 musiciens, ensuite j'en ai eu 35. Et puis après, l'émission a été en public. Et donc j'ai été obligé de prendre un orchestre de jazz, qui était très spécial d'ailleurs, parce que j'avais la formation de jazz, plus trois flûtes, un hautbois, quatre violoncelles, c'était très curieux. Et donc j'ai écrit pour ces orchestres, et donc je composais, j'orchestrais, et j'écoutais tout de suite, puisqu'on le jouait toutes les semaines. Et alors je m'étais fait vraiment un devoir de refaire toutes les orchestrations des artistes qui passaient dans l'émission.
Thank you. La Bardinette, c'est le nom de ce morceau d'André Pop. Alors, on a entendu deux versions enchaînées. D'abord, la version de l'orchestre de musique légère
de Radio France,
enfin l'ORTF,
oui, de l'ORTF à l'époque.
Dans une stéréo des premiers temps.
Tout à fait.
Sous la direction du compositeur André Pop. Et puis ensuite, Jos Baselli à l'accordéon dans une des nombreuses reprises de ce morceau important
oui,
dans le répertoire de musique légère.
J'adore ce morceau parce que d'abord, la mélodie est formidable, l'orchestration d'André est formidable, parce qu'on a fait Jos Baselli aussi. Mais pourquoi il s'appelle La Bardinette? Tout simplement parce qu'on parlait tout à l'heure et André Pop en parlait lui-même dans la petite interview à l'instant. Il parlait de l'émission du samedi soir à 21h sur Paris Inter, s'appelait La Bride sur le coup. Elle avait débuté en 1953, cette émission. Eh bien, une des musiques qu'avait écrite pour cette émission André Pop, c'était La Bardinette, pour rendre hommage à Jean Bardin. Qui était un des deux présentateurs de l'émission avec le fameux Bernard Hubren. Bon. Et alors, j'avais demandé à André si c'était l'indicatif de l'émission La Bride sur le coup. Il m'a dit, j'en suis pas très sûr, peut-être au début, mais en tout cas, elle faisait partie intégrante de l'émission La Bride sur le coup à un moment donné. Voilà ce qu'il
voilà,
a pu me raconter.
En tout cas, voilà André Pop dans un genre de musique légère encore assez polissé. Hein,
oui. Et après
Oui, pardon,
il a été, je voulais terminer sur les musiques légères de Radio France, puisque vous avez eu la gentillesse de passer ce morceau par l'Orchestre de musique légère de Radio France. André Pop a été de très nombreuses fois sollicité par les musiques légères de Radio France. Il y a eu Pierre Gabbé, il y a
Dutilleux
au départ, et puis il y en a eu un autre au milieu, c'était Pierre Petit.
Oui.
Hein, qui
était responsable du service à l'époque.
Voilà, successivement, il y a eu Dutilleux, Petit et Gabbé. Et ces gens-là demandaient à André Pop d'écrire souvent des musiques pour ce service de musique légère de Radio France.
Voilà, donc il était, on peut dire, adoubé par des grands classiques. Mais vous nous l'avez dit, Daniel Pop, votre père aussi était entré dans la maison avec les écrivains qui étaient nombreux à l'époque à la radio diffusion française et qui étaient souvent donc des poètes un peu très originaux, proches parfois de l'Oulipo ou du surréalisme. Vous avez cité Soupeau, vous avez cité Queneau. Est-ce que votre père, parce que ça pourrait expliquer certaines évolutions de sa propre musique, est-ce qu'il avait justement un penchant pour ces jeux oulipiens à la Raymond Queneau ou pas spécialement? C'était le hasard des rencontres.
Alors, un goût pour les mots, un goût pour les mots, un goût pour le verbe, oui, en ce sens que c'était un véritable expert des mots croisés. On est un peu haut de l'Oulipo, j'en conviens. Mais les mots comptaient pour lui. Ça, c'est indéniable.
Parce qu'en tout cas, il va après ce premier disque musique en tout genre, donc qu'on a entendu avec Manounou du Tanganyika et à l'instant La Bardinette, il va assez rapidement évoluer vers des choses beaucoup plus étranges, vers un goût du bizarre, des machines musicales un peu folles. Et donc, voilà, ça arrive très très vite, dès l'année d'après, avec son album suivant, Daniel Pop.
Ça arrive très vite, c'est l'album Elsa Poppin, qui est un album culte.
Hein, c'est le nom de cet album.
Alors, c'est une impression personnelle. C'est que, en définitive, tout ça, ça se passe au Club d'essai.
Oui.
Et, en fait, entre Pierre Schaeffer et André Pop et nombre d'autres compositeurs, ils se disputent le studio pour pouvoir récupérer le studio. Et en fait, moi, la suggestion que je fais, c'est que, bon, Pierre Schaeffer et tous ses amis, Pierre Henry, je ne dirais pas qu'ils faisaient du bruit, ça serait désagréable.
Ah non, ce serait pas gentil.
Ça serait désagréable. Mais je dirais que papa avait une approche un petit peu similaire, en
et
ce
plus
sens
ludique.
Qu'il utilisait la même technique avec les bandes magnétiques, etc., etc., pour faire de la musique.
Voilà, mais pour faire des choses drôles, divertissantes. Et cet album.
Et musical.
Et donc cet album de 1957, Elsa Popigne et sa musique sidérante. Voilà, j'ai la pochette sous les yeux grâce à notre ami Serge Laïc. Alors là, on s'éloigne beaucoup des canons de Pierre-Marcel Onder et des grands de la musique légère.
Complètement. Hein. Et d'ailleurs, dans ce disque Elsa Popigne, ce ne sont pas des compositions d'André Pop, ce qui est assez remarquable, parce
Absolument.
Que d'habitude, il joue toutes ses compositions. Et là, ce ne sont
il des... reprend des grands,
il reprend des grands standards, voilà.
Mais il les déforme d'une façon étonnante. On va le voir tout de suite avec la polka du roi de Charles Trenet.
Thank you. plaît. Pour on danse, elle n'a pas dansé. Le menu était la polka du croix. S'achève la polka du roi.
Loé ! Voilà la polka du roi, revisitée dans les studios de l'ORTF par André Pop, avec à la fin la voix de votre mère, Daniel Pop, c'est ça ?
Ah bah oui, c'est maman. À la fin, Loé, c'est Freddy Balta.
Ah d'accord, c'est Freddy Balta, d'accord.
En tout cas, voilà un disque très très étonnant, Elsa Popine. Il faut d'ailleurs préciser que si son premier disque avait été préfacé justement par Pierre-Marcel Onder, l'expert des musiques légères, et bien le second disque, lui, est préfacé, le texte de la pochette est décrit par Boris Vian. Évidemment,
c'était son directeur artistique.
Se rapprochait beaucoup. C'était son directeur artistique chez Philips. Ils s'entendaient bien, j'imagine.
Oh, mais ils étaient très, très, très amis. Oui. Mais ils se sont connus relativement tard, parce qu'en fait, ils se sont connus 4-5 ans avant le décès de Boris.
Voilà. On pourrait dire d'ailleurs qu'il y a. C'était d'ailleurs aussi un ami de Boris Vian, Serge Laïc, un point commun entre Michel Legrand et André Pop, qui étaient très proches. C'est justement à la fois cette capacité de faire de la musique légère et cette envie un peu de pervertir le genre.
C'est vrai, et d'ailleurs, époque, hein.
D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Michel Legrand aussi.
Mais complètement, avec les valses de Vienne, Michel Legrand, à exactement la même époque qu'Elsa Popping, avait complètement, comme dit Benoît, perverti la musique viennoise. Et ça avait entraîné les foudres.
Et ça plaisait pas à tout le monde. Hein.
Ça avait entraîné les foudres de notre cher ami Pierre-Marcel Onder à l'époque, qui lui était la rigueur absolue dans la musique viennoise. Il n'était pas question. Et donc, il y avait eu un affrontement entre Michel Legrand et Pierre-Marcel Onder à cette époque.
Mais c'était des iconoclastes. Ouais.
Alors, donc, en même temps qu'il produit ses premiers disques étonnants de musique d'orchestre, André Pop devient vraiment aussi un grand personnage donc, du monde de la chanson. On l'a entendu en commençant avec Jacqueline François, et vous nous l'avez dit, ça s'accélère ensuite. Peut-être aussi, d'ailleurs, à travers Boris Vian et les disques Philips, Daniel Pop, et puis des rencontres comme Catherine Sauvage ou d'autres
oui,
artistes.
Bien sûr, Catherine Sauvage, il la rencontre bien plus tôt, il la rencontre chez Raoul Breton.
Oui.
Mais ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça paraît fou. Parce qu'en fait, il avait énormément d'activités à la radio, avec l'émission La Brise sur le
Comme il l'a dit lui-même,
mais
d'ailleurs, ça n'arrêtait pas.
Plus
oui.
Tout le reste, les commandes qui pleuvaient. En même temps, il devenait l'arrangeur de Jacques Canetti. Il a fait des centaines d'arrangements.
C'est, oui, ça, voilà.
C'est totalement inouï.
C'était à travers Jacques Canetti, donc. Oui.
Et il était en parallèle, il était compositeur. En fait, il a arrêté les arrangements à la fin des années 50, parce qu'il trouvait que les arrangements lui prenaient bien, bien trop de temps et lui bouffaient ses idées.
Il me disait que ça lui bouffait ses idées.
Voilà. Alors moi, j'aimerais bien qu'on écoute, peut-être vous allez nous en dire quelques mots, justement, à nouveau, André Pop, dans le monde de la chanson, à travers une chanson qui m'a beaucoup plu, que je ne connaissais pas, c'est Juliette Gréco, ça s'appelle « La complainte du téléphone ».
Ah, oui.
Et vous nous en dites quelque chose, peut-être?
La complainte du téléphone, en fait, a donné lieu par la suite à un spectacle écrit avec François Billedoux. C'est Billedoux qui a fait le texte de la complainte, qui s'appelle « Ifi ». qui se trouve sur le coffret.
Le coffret que vous venez de d'éditer avec des tas de raretés ou de choses plus connues d'ailleurs.
Avec un certain nombre d'inédits.
Six CD passionnants.
Et pour moi, ça a été un bonheur fou de découvrir que dans les archives d'Universal, il y avait effectivement IFI, qui est une déclinaison de la complainte. La complainte du téléphone, moi ce que j'aime beaucoup dans cette chanson, c'est il y a un arrangement que je trouve formidable, qui est brillant, oui. Avec des sonneries de téléphone, avec ce qui évoque les sonneries de téléphone.
Quand on se quitte, mais que tu me téléphones, j'ai de la peine pour des tas de raisons. Ça me désole que ta voix me résonne dans l'oreille, mais que tu sois pas là. Puis tu parles trop près de l'écouteur, je sais que tu m'aimes, mais crie pas si fort. Tu appelles quand je travaille ou je dors, c'est à croire que tu choisis l'heure. Téléphone si t'en as envie, mais je t'en prie, pas à moi quand tu bafouilles. Écris-moi, raconte-moi ta vie, mais tu sais, ça suffit, tu penses à moi. Quand ça sonne, j'ai un coup au cœur. Ça m'agace, je crois que c'est encore toi. Sept coups de téléphone pour une seule personne en une heure, ça fait beaucoup trop. Quand on parle, on dit des bêtises, on se dispute, on ne se connaît plus. Dans la vie, veux-tu que je te dise, ce qui compte, c'est les sentiments. Les oreilles, ça a des limites, moi je t'aime quand tu parles pas. Un silence, un cœur qui bat vite, une caresse, ça ne se remplace pas. Téléphone si t'en as envie, mais pour moi ne cherche pas à faire des phrases. Je sais bien, tu veux pas que je t'oublie, mais des fois je crois que ça me reposerait. Quand on se quitte et que tu me téléphones, tant que tu parles, ma pauvre tête bourdonne. Je préfère qu'on se rencontre, qu'on se tienne bien tout contre, qu'on s'embrasse et que tu dises plus rien.
La complainte du téléphone, Juliette Gréco, en 1957. Donc encore une musique merveilleusement orchestrée par André Pop. On peut dire sous la protection de Jacques Canetti, qui était le grand patron des disques à l'époque.
Sous la protection de Jacques Canetti, mais de temps en temps... Pourquoi protection? Parce que, notamment pour Juliette Gréco, il y a des arrangements dont on peut dire qu'ils sont barrés. Barrés, ça veut dire dissonance, et ouais. C'est vraiment extraordinaire.
Et c'est même arrivé que certains artistes soient eux-mêmes un peu déconcertés.
Là, en l'occurrence, c'est pas tant l'artiste que l'auteur-compositeur, c'est Guy Béard.
Oui.
Une chanson qui s'appelle Chandernagor, qui est dans le coffret. Ouais, ouais. Bon, l'arrangement, moi, je le trouve sublime. Il a été refusé par Guy Béard à l'époque, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, c'est beaucoup trop moderne. »
C'est beaucoup trop bizarre.
Et il n'est ressorti que 25 ans plus tard dans une compilation. Et Béard, après coup, c'est ce qu'il raconte à Bertrand Dical dans la biographie de Gréco, il dit « Ah oui, non, mais je reconnais. Aujourd'hui, ce sont vraiment des arrangements très travaillés. C'était presque de la musique contemporaine. »
Alors, parmi les autres grandes chansons arrangées par André Pop, faut quand même citer « Quand on n'a que l'amour ».
Oui.
De Jacques Brel.
Oui, qui est un arrangement.
Qui est pas la plus originale,
plutôt enfin, standard.
Tout le monde la connaît, voilà.
Oui, mais c'était le premier.
C'est le premier succès de Jacques Brel.
Ah, c'est le premier succès de Jacques Brel.
C'est quand même André Pop qui est derrière.
Ah, je suis d'accord.
Et puis d'autres artistes qui arriveront plus tard, peut-être on peut en dire un mot, parce que ça a été vraiment, je crois, un complice de votre père, même si on le connaît peut-être moins aujourd'hui, c'est Jean-Claude Massoulier.
Ah, Massoulier, c'était un grand ami de la famille.
Parlez-nous un peu de Jean-Claude Massoulier.
Jean-Claude Massoulier, en fait, n'a peut-être pas réussi à faire la carrière de chanteur qu'il aurait souhaité, parce qu'il a sorti beaucoup de disques composés et arrangés par papa, mais il a fait une très très belle carrière de comédien.
Voilà, et puis quelques années plus tard, il a même fait un 45 tours avec vous, Daniel Pop.
Oui.
Wakadi, Wakadou.
Non, parce que Jean-Claude Massoulier, ça se situe quand même bien plus tard. C'est pas dans les années 50, c'est les années 60. Et ça, c'est à la fin des années
60. Vous avez été un jeune chanteur, vous aussi.
Ça, c'est en 71.
Voilà, tu as commis ce disque quand même, que tu le veux.
J'ai commis quelques disques, mais c'est pas le sujet du jour.
Non, mais vous avez fait de la musique et des chansons composées par votre père, d'ailleurs.
C'est vrai que j'étais musicien et enfin quand on est musicien,
votre père voyait ça d'un bon œil que vous vouliez devenir chanteur.
Je vais vous dire, c'est simple. Quand j'arrive, quand j'arrive de province, parce que j'ai fait toutes mes études à Bressuire, pas loin de Fontenay-le-Comte où mon père avait vécu. En fait, moi, mon désir, c'était d'être compositeur. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui fait que je suis devenu chanteur à l'occasion de quelques disques, c'est que mon père m'a fait faire une maquette d'un titre qui s'appelait Wakadou. qui était sympa. Mais bon, il y a eu un événement important dans ma vie, c'est le désert. Après, le désert m'a pris dans ses bras et je me suis retrouvé sur d'autres horizons.
Mais vous êtes là avec nous et on en est très heureux ce matin donc pour évoquer votre père André Pop. Et je reviens juste un instant parce que vous nous avez un peu expliqué qu'il faisait beaucoup de choses, mais il y a quand même, oui, comme une espèce de conjonction miraculeuse qui fait que en 56, 57, 55, il y a tout à la fois. Il y a Les Lavandières du Portugal, il y a les deux premiers albums extraordinaires, Elsa Popine et Musique en tout genre. Et puis, au même moment, encore en plus, il y a Piccolo et Saxo qui commencent.
Mais ça paraît invraisemblable parce que la question qu'on peut se poser, c'est comment
faisait-il ? Est-ce qu'il arrivait à faire tout ça ?
C'est comment faisait-il ? Voilà. Parce que je rappelle que pendant 5 ans, Serge, il me semble, la bride sur le cou, ça a duré.
Oui, ça a duré un tout petit peu plus.
Voilà, c'est ça. Il avait une demi-heure de musique à composer et à arranger.
Toutes les semaines.
Par semaine. Ouais. C'est ahurissant.
Et alors, Piccolo et Saxo, c'est arrivé comment ?
Je crois que, pour répondre à la question « comment faisait-il ?», il écrivait très vite, en fait. Il avait une capacité, par exemple, pour Piccolo Saxo, le premier disque de Piccolo, il l'a fait en 15 jours, je crois.
Oui. L'idée est venue de qui, alors ?
L'idée, en fait, Canetti, un jour, convoque Pop et Broussol. Et
qui était resté ami, simplement, voilà, qui veut...
Oui, parce que Canetti lui dit, voilà, il y a une œuvre qui s'appelle Toby le Tuba, aux États-Unis, qui était une œuvre d'éducation musicale. Mais qui, Canetti dit, faites une adaptation, faites un Toby le tuba français. Et papa lui dit, quitte à faire quelque chose, autant créer un concept nouveau. Et c'est là où, travaillant avec Jean Broussol, en fait, ils ont une idée formidable en consultant un traité d'orchestration, et là il y a eu un eureka, et ça y est, il faut que les instruments partent à la découverte de toutes les familles d'instruments, et le premier piccolo était déjà dans la boîte.
Et donc 15 jours pour l'écrire, extraordinaire quand même.
Serge Lahaye,
pour la musique,
ça a été assez rapide.
Très rapide,
ça a été
c'est ce qu'il m'avait dit, en tout cas, il avait fait ça en très peu de temps.
Voilà, donc le texte est de Jean Broussol.
Oui.
La musique est d'André Pop. Le premier Piccolo et Saxo sort
en 56.
Oui. Et ça va être tout de suite un succès considérable.
Alors, ça va être un succès discographique. Mais figurez-vous que l'œuvre n'a été interprétée en concert que grâce à la volonté de quelques personnes. Je pense à Jeanine Rose, oui, qui est une productrice, oui, classique. C'est grâce à Jeanine Rose, à l'éditeur Max en Fou, que des concerts ont pu commencer à se mettre en place, mais bien plus tard.
C'est vraiment un objet discographique.
25 ans plus tard.
Ce que l'on peut dire aussi sur Piccolo Saxo, quand ton papa André est allé voir Jacques Canetti avec le résultat de leur cogitation, lui et Jean Broussol, André Pop et Broussol, Jacques Canetti lui a dit « Oh mais non, mais il n'y a aucune chance que ça soit un succès, ça. Aucune chance, ça passera jamais. »
Il disait « On va se planter. »
Et donc, une fois que le succès est arrivé, ton papa m'avait dit aussi, mais à ce moment-là, Jacques Canetti lui a dit « Mais il faudrait m'en faire un très rapidement derrière et plusieurs, prévoyez-en 10. »
Piccolo et Saxo, musique d'André Pop, histoire de Jean Broussol, et merci encore aussi Serge Laïc, parce que comme toujours vous êtes venu, là je dois dire, avec une valise carrément, pleine de disques.
C'est incroyable, t'as amené ta bibliothèque.
Oui, voilà. C'est pas vraiment la
quelques-uns des trésors, des pochettes d'époque, des beaux vinyles, etc. Et alors là, voilà, une version de quel pays, tiens, américaine, par Victor Borge, de Piccolo et Saxo, parce qu'en fait ça a été adapté dans de très nombreux pays.
Ça a été adapté dans tous les pays.
Dans tous les pays. Voilà.
Il y a eu des versions allemandes, italiennes, espagnoles.
Voilà.
Succès international.
André Pop, on en parle aujourd'hui aussi à l'occasion de la parution de ce coffret de 6 CD. André Pop, la musique même, M'AIME, œuvre choisie par vous-même, Daniel Pop.
Oh, écoutez, j'ai eu une chance extraordinaire parce qu'Universal m'a laissé complètement carte blanche.
Ouais.
Et c'est merveilleux parce que j'ai pu à la fois, comment dirais-je, faire une œuvre patrimoniale en ce sens qu'il y a. Il y a toute la musique, effectivement, de papa historique, mais il y a aussi le lien avec la façon dont les artistes d'aujourd'hui, effectivement, reprennent ces chansons.
Oui, parce qu'il est toujours très
d'actualité. Il est toujours interprété par des artistes japonais, par des artistes américains.
Et ça on va le voir d'ailleurs dans un instant, mais vous avez donc choisi aussi de diviser, de classer un petit peu ce coffret en quelques catégories.
Absolument.
Hein. Le premier, c'est instrument.
Par genre musical.
Instrumentalement vôtre, c'est donc toutes ces musiques légères qu'on a entendues.
Ce sont ses disques. C'est les disques qu'il a enregistrés.
Voilà. Ensuite, génériquement, ce sont les génériques. On va tout de suite en dire un mot. Et puis ensuite, des orchestrations et enfin des chansons enregistrées autrefois avec lui ou reprises aujourd'hui.
Voilà.
Voilà. Donc un coffret très riche.
Et les piccolos à la fin.
Et bien sûr, piccolo et saxo. Et des choses rares aussi, hein, qu'on n'avait pas vu rééditées depuis fort longtemps, qui sont rassemblées ici.
Absolument.
Les génériques, oui. Moi, j'ai grandi, par exemple, avec Yvan Noé. C'était André Pop. Hein.
Moi aussi.
On peut en citer quelques autres.
Les maîtres du mystère. C'était extraordinaire.
C'est peut-être
ça a percé ma jeunesse.
Voilà,
ça,
les maîtres du mystère, ça a été une série tellement populaire à la radio que, enfin, c'est tout le monde connaît ça.
Mais
quoi.
Tout le monde. Et puis ça a été, je crois, une quinzaine d'années sur la radio.
Et puis
nationale.
Bon, la tête et les jambes, enfin, tous ces, voilà. C'était les grands
les chiffres et des lettres au début.
Les chiffres et des lettres, c'était les grands jeux télévisés de notre génération.
Oui. Les anciens combattants qui parlent.
Non, parce que tout ça a très très bien vieilli. Tout ça est à la fois plein de fraîcheur, d'invention toujours, c'est ça, André Pop, et puis de bizarrerie. Alors moi, j'ai choisi, L'Homme Invisible. C'est quoi ce titre
L'Homme Invisible, ça fait partie d'un 45 tours.
Oui.
L'homme
pourrait être un générique des Maîtres du Mystère, d'ailleurs, mais sauf que là, c'est un morceau fait pour le disque, indirectement.
Oui, c'est un morceau qui était fait pour le disque. Il y a quand même un texte qui est signé Pierre Court. J'ai réalisé ça. Ça, à mon sens, ça n'a jamais été chanté.
Voilà.
Mais bon, c'est un côté jazzy que j'apprécie.
Parce que votre père était un grand amoureux du jazz, il faut le dire. On l'a pas souligné.
C'était pas un grand amoureux du jazz. Il adorait Stan Kenton. Il adorait Errol Garner. Il adorait les Hilos. Mais ça n'était pas un improvisateur, il est le premier à le dire.
Oui, on est d'accord. Mais il était très.
Mais il y a vraiment un esprit de jazz à tel point que votre confrère Alex Dutille lui a consacré sa rubrique Jazz au trésor. Ce qui est quand même, c'est une reconnaissance extraordinaire.
Absolument.
Merci Alex.
Alors attention, n'ayez pas peur, tendez bien les oreilles.
Qui est là ? Là.
Ah, j'adore, L'homme invisible, moi 1964, aussi. André Pop, vous aussi Serge?
Ah oui, c'est génial.
Voilà, un des nombreux titres de votre père, Daniel Pop, et de son invention toujours en éveil et en activité. Alors, vous le disiez, André Pop, bon, il nous a quittés maintenant il y a cinq ans. J'avais eu la joie d'ailleurs de le rencontrer, même s'il était fatigué. Peu de temps avant sa disparition,
oui. dans son appartement, une de ses dernières interviews. Oui, on était ensemble.
Il habitait une tour de la Défense, c'était un choix moderniste.
Il habitait au 36e étage de la tour Eiffel à la Défense, il avait une vue extraordinaire. Oui. Bon, c'était un cadre très urbain, mais bon, il aimait ça.
Voilà. Et donc depuis déjà un certain nombre d'années, il était devenu quand même un objet de passion pour des musiciens pointus, à la recherche d'idées, notamment du côté, oui, du rock, de l'électro, etc. Ah oui. Je me rappelle notamment, par exemple, quand Bertrand Burgala, chez Tricatel, avait déjà sorti un hommage à André Pop.
C'est Burgala qui a sorti la première compilation dédiée à André Pop, et je l'en remercie au passage, vraiment.
Voilà, parce qu'il lui a redonné un air de jeunesse.
Absolument, absolument.
Et alors, Pop est aussi pas mal pillé, samplé, etc.
Pop est largement pillé, effectivement, sur un certain nombre de titres. Mais vous parliez effectivement de la scène hip-hop électro. Il y a un groupe français dont on parle beaucoup, c'est Bon Entendeur, qui a repris plusieurs titres dans son premier disque qui est sorti il y a pas longtemps. C'est vraiment formidable. Il y a plein de hip-hoppers et rappeurs aux États-Unis qui reprennent ces instrumentaux. Ah oui, mais c'est très tendance.
Et Serge Laïc.
Et puis il y a le Sacre du Tympan avec Fred Palem.
Et Fred, évidemment.
Qui a été, comme disait André lui-même, c'était son fils spirituel.
Absolument.
Voilà. Et puis, il y a eu quand même, dans les années 90, des reprises par des orchestres autres. Par exemple, un orchestre hollandais qui a repris les premiers morceaux d'André avec modernisme, on va dire, avec des techniques modernes. Et ça fait partie d'un cadeau qu'on a fait à André, qui était très
absolument
heureux de
ce disque-là. C'était un bassiste hollandais, voilà, qui s'est pris de passion pour les premiers albums de papa, oui, et qui les a recréés en concert. Voilà. Ils ont fait une tournée en Hollande, en Allemagne. Ils ont recréé une formation, la même
et
formation.
À propos de concert, Daniel Pop, le 12 janvier prochain, aux Champs-Élysées.
Le 12 janvier, alors... Piccolo saxo, on peut l'écouter en disque, mais écouter Piccolo avec un orchestre symphonique de 80 musiciens et avec Juliette comme narratrice, c'est extraordinaire, d'autant plus que il y aura le premier Piccolo et le deuxième, Passeport pour Piccolo, qui est très très rarement exécuté. C'est au Théâtre des Champs-Élysées, c'est le 12 janvier, il y a deux séances à 11h et à 15h.
Voilà, à bon entendeur. Connaissez-vous les Portuguese et Washerwoman?
Avec Walter Wanderley.
Avec Walter Wanderley et la fraîcheur de la voix d'Astrud Gilberto.
Donc encore une reprise des Lavandières du Portugal, assez ancienne celle-là de 1967. Revenons à André Pop, parce que sa carrière ne s'est pas arrêtée à tous les titres qu'on a cités, loin de là. Et notamment, il a connu deux passages marquants au fameux concours Eurovision. Vous savez, à l'époque où la France arrivait encore en tête, et oui, c'est arrivé arrivait très souvent au début. Ouais. Et notamment, Tom Pilibi, c'est une chanson donc, qui a remporté le concours Eurovision avec Jacqueline Boyer,
avec
sur
Jacqueline
une musique
Boyer,
d'André Pop.
Absolument.
Hein, voilà.
Et qui fait une jolie carrière parce que Tom Pilibi, à ma grande surprise, va être intégré à une série anglaise. Ouais. On m'a appris ça il y a 10 jours. C'est incroyable.
Et puis, alors, une autre chanson qui n'est arrivée que 4e, enfin aujourd'hui en général on est plutôt 40e, donc c'est bien. c'était Love is Blue.
L'amour
est
bleu.
Et qui est devenu un succès énorme. Alors c'est, à l'origine, c'est une chanson, hein, et ça s'appelle L'amour est bleu en français dans le texte. Hein.
Tout à fait, composé donc, par André Pop et avec des paroles de Pierre Court comme toujours
nouveau.
Pour l'Eurovision. Et
alors la candidate, c'était...
C'était Vicky Leandros, et bon, il y a eu tout un concours de circonstances que le morceau d'André Pop et de Pierre Court, L'amour est bleu, a été choisi. Et finalement...
Pour représenter la France.
C'était le Luxembourg.
C'était le Luxembourg, pardon. Voilà. Eh bien, on va écouter André Pop qui nous raconte lui-même un petit peu ce qui s'est passé autour de... L'amour est bleu, devenu un tube mondial sous
avec
le titre
Paul
Love
Moria.
Is Blue avec Paul Moria qu'on entend tout de suite après.
C'est une aventure, je dirais, qui a tenu à deux personnes. C'était très très curieux parce que c'est une chanson qui représentait le Luxembourg, l'Eurovision, et eux ils ont voté pour un choix de chanson. Et donc la chanson est passée à une voix près. Bon, il y a donc cette voix-là, et ensuite, l'Eurovision, ça s'est pas très très bien passé, on est arrivé 4e. Et alors ensuite, aux États-Unis, donc le disque de Moria est parti aux États-Unis, personne n'y croyait beaucoup. Et puis il y a un disque jockey dans le Minnesota, je crois, qui a reçu le disque et qui a passé ça toutes les heures sur son antenne. Et après, tout le monde a commencé à téléphoner, et c'est comme ça que ça fait le tour des États-Unis.
40 millions de disques de Love is Blue vendus dans le monde.
Et complètement court-circuité en France. Ça, je tiens à le dire, parce que c'est quand même quelque chose, je crois, d'unique. Oui. C'est d'ailleurs une chanson qui fait le tour du monde. À l'époque, Moria n'est pas du tout passé en France. Il n'a pas fait de concert, il n'est pas passé à la télévision. Mais c'est quand même bizarre que cette chanson... Et si vous, maintenant, où la mode est à revenir aux années 60, 70, 80 et tout ça, on ne parle jamais.
En tout cas, il y a une centaine de versions au minimum de Love is Blue, de L'amour est bleu dans le monde.
Oh, plus que ça.
Combien,
il doit y avoir, non, il doit y avoir 500 versions.
Thank you.
L'amour est bleu, Paul Mauria et son orchestre, donc dans ce titre d'André Pop enregistré là en 1967. Les courriels d'auditeurs arrivent. Il y a un monsieur qui nous explique qu'il vit au sud du Portugal et que les lavandières du Portugal ont joué un grand rôle dans sa vie. Et puis, une auditrice qui nous dit qu'elle s'est précipitée pour piccolo et saxo le 12 janvier, mais que c'est complet, Daniel Pop. Non, vous pensez qu'il reste quelques places parce qu'il y a deux concerts. Hein,
non, c'est pas complet, mais le concert de 11h le matin se complète assez rapidement. Ça, j'ai effectivement, Janine Rose me l'a confirmé hier, mais il y a encore de la place. Il n'y a pas de souci.
Serge Laïc.
Je voudrais dire qu'avec ce morceau, Paul Mauria a été donc numéro 1 aux États-Unis pendant 5 semaines consécutives. C'est unique, ça s'est jamais reproduit, qu'un Français reste 5 semaines numéro 1 dans tous les hit parades américains. C'était impressionnant. Et grâce à ce morceau composé par André Pop, eh bien, Mauria fait ensuite une carrière mais monumentale de tournée autour du monde grâce à André Pop.
Grâce à ce morceau-là.
Grâce à ce morceau, Love is Blue. Ça a été une vedette internationale et surtout au Japon. Oui. Au Japon, c'était impressionnant. Il y avait des salles de 15 000, 20 000 places qu'il acclamait pendant toutes les tournées qu'a pu faire Mauria là-bas.
En fait, ce qui est assez merveilleux, c'est que ça a vraiment été interprété dans tous les genres musicaux.
Bien sûr.
À la fois en musique classique, à la fois en jazz. Et justement, dans le coffret, j'ai découvert des pépites de versions inédites de Love is Blue.
Allen.
Daniel Pop, votre père, dans les dernières années de sa vie, était fier de tout ce qu'il a fait de si extraordinaire ou un peu mélancolique, comme on peut l'être, de voir ses années de gloire s'éloigner dans l'histoire?
Je pense qu'à chaque fois, effectivement, que des personnalités comme Bertrand Burgala ou Fred Palem ou le soutien de Janine Rose, effectivement, se représentaient, bah, de toute façon, ça lui confirmait qu'il y avait quand même une sacrée œuvre derrière lui. Mais vous savez, c'était pas un homme du passé, papa.
Non, c'est vrai.
En fait, il était, quand il avait, Piccolo, il y a eu un film quand même,
il y a eu
un dessin animé en 2006.
Donc pas d'amertume en tout cas.
C'est pas si vieux que ça parce que c'est lui qui a fait toute la BO. Donc il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie.
Et il était très heureux d'avoir repris cette musique de Piccolo parce qu'il m'avait dit également là, j'ai réussi à reprendre le chemin de l'écriture avec une facilité déconcertante.
Ah oui.
Écoutez, en tout cas merci à tous les deux. Merci pour ce coffret. Magnifique, Daniel Pop, André Pop, la musique même, c'est sorti chez Universal, 6 CD pour tout savoir d'André Pop. Et puis merci Serge, voilà, d'avoir toujours été la bonne voix de la musique notamment et des arrangeurs.
Merci. Et
de ces interviews d'André Pop que vous nous avez
proposées
ce matin.
Merci.
On va se quitter. Faut en dire un mot encore parce que elle, on l'a même pas évoqué et pourtant elle a chanté quelques-uns des plus grands succès d'André Pop. Si vous dites, c'est Marie Laforêt qui vient de nous quitter.
18 titres il a composé pour elle.
18 titres.
Et il a arrangé toutes ses chansons de 1963 à la fin des années 60.
Ça ne devait pas être toujours facile parce qu'elle avait son caractère, Marie Laforêt. Mais il s'entendait
bien. Il s'adorait. Il s'adorait parce qu'ils étaient. Il y avait ce petit grain de folie.
Il paraît qu'elle avait une mémoire musicale extraordinaire. Qu'en studio, c'était d'une simplicité formidable.
C'était
avec
une interprète exceptionnellement douée.
Il avait dit qu'il n'avait jamais revu cela.
Et donc, par exemple, Manchester et Liverpool, c'est encore André Pop.
Absolument.
Avec qui nous étions ce matin. Merci, messieurs.
Merci.
Et à bientôt.
Manchester et Liverpool, je me revois flânant le long des rues. Au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus. Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins perdus, en cherchant ce bel amour que près de toi j'avais connu. Je t'aime, que j'aime ta voix qui me disait je t'aime, et moi j'y croyais tant et plus. Manchester a des murs tristes, et Liverpool vient pleurer sur la mer. Je ne sais plus si j'existe, les bateaux blancs craignent l'hiver. Manchester est sous la pluie, et Liverpool ne se retrouve plus. Dans la brume d'aujourd'hui, l'amour lui aussi s'est perdu. Je t'aime, je t'aime, j'écoute ta voix qui me disait je t'aime, je t'aime, et je n'y croirai jamais plus.
Marie Laforêt en 1966 dans cette chanson d'Eddie Marnay, avec la musique bien sûr d'André Pop et les arrangements d'André Pop, une des chansons que vous pouvez retrouver dans ce très beau coffret André Pop, la musique même, 6 CD d'œuvres choisies qui viennent de sortir chez Universal. Et puis donc apparemment il reste quand même quelques places si vous voulez aller écouter Piccolo et Saxo, ou plutôt voir Piccolo et Saxo en scène le 12 janvier au Théâtre des Champs-Élysées.
Una muñeca que baila cha-cha-cha, marca unos pasitos y baila cha-cha-cha. Una muñequita que canta cha-cha-cha, abre su boquita y dice cha-cha-cha. Muñecas que por su hermosura dedican la vida a bailar, luciendo su bella figura. Una muñeca que baila cha-cha-cha, marca unos pasitos y baila cha-cha-cha. Una muñequita que canta cha-cha-cha, abre su boquita y dice cha-cha-cha. Muñecas que por su hermosura dedican la vida a bailar, luciendo su bella figura.
Chas de cha-cha-cha, c'était la grande Chelea Cruz.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Voilà, un petit air de salsa avant de conclure cette émission avec des couleurs d'opérette et d'opéra comique. Vous savez, l'opéra comique qui va reprendre dans quelques jours Fortunio, le bel opéra comique d'André Messager, d'après le Chandelier, donc une pièce de théâtre d'Alfred de Musset, dont Messager a tiré cette grande œuvre. On l'avait déjà vu avec beaucoup de joie à l'opéra comique voici quelques temps. Et là, c'est donc la reprise de cette production qui m'a donné envie de vous rappeler rappeler que, en fait, ce chandelier de Musset a donné lieu à deux œuvres différentes, parce qu'avant Messager, il y a eu Offenbach qui a écrit La chanson de Fortunio, un ravissant petit opéra comique de 1861. Et je me suis dit que c'était l'occasion de réécouter La chanson de Fortunio version Offenbach, chantée ici par Yvonne Printemps.
Si vous croyez que je vais dire qui j'en ai mis, je ne saurais pour un empire. Vous n'en avez, nous allons chanter à la ronde. Si vous voulez que je l'adore et qu'elle est blonde comme les blés, je fais ce que sa fantaisie veut pardonner, je puis si lui font ma vie.
Yvonne Printemps dans le film La Valse de Paris qui chante donc la chanson de Fortunio d'Offenbach. Et à l'Opéra Comique, ce sera donc le Fortunio d'André Messager que vous allez pouvoir redécouvrir à partir du 12 décembre et qui comporte lui aussi d'ailleurs au moins un tube. C'est La Petite Maison Grise avec laquelle on va se quitter, chantée par Georges Thill. Georges Till qui chantait La petite maison grise, extraite du Fortunio d'André Messager, ce Fortunio de 1907 que vous allez pouvoir redécouvrir à l'Opéra Comique. C'est un vrai chef-d'œuvre à partir du 12 décembre sous la direction de Louis Langrée dans une mise en scène de Denis Podalydès. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique José Bernays et Thibaut Nassimben, réalisation Christine Amadou. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mon invité, ce sera François Morel. François Morel, chanteur, acteur, et François Morel, interprète de Raymond Devos, en ce moment à Paris, au Théâtre de la Scala. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.